بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك العلام ذي الجلال والإكرام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأنزل علينا القرآن هدى للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله معبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عنه تخبط في ديازير الظلام. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين العلام وعلى صحابته خيار الكرام، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الله سبحانه وتعالى تنفانتي وانبعون تنفانتي. طيب الله إن شاء الله Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur le seul et très prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui le suivront sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères d'Islam, il ne fait aucun doute que nous vivons à une époque compliqué, à une époque de troubles. Et la seule chose qui peut nous permettre de nous en sortir et de nous comporter comme il se doit face à ces troubles, c'est la science islamique. Parce que l'homme a pour obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit dans toute situation. Yani, quel que soit ton état, quelle que soit la période, nous avons l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et remarquez que je précise comme il se doit. Donc en temps de trouble, nous avons l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit de l'adorer en temps de trouble. Et nous ne pouvons le faire que si nous savons comment nous devons l'adorer en temps de trouble. D'où l'importance de ce genre d'assises. Et vous savez que surtout ces derniers temps, les troubles se sont amplifiés. Et le croyant n'est pas celui-là qui ne sait pas où il va. Parce qu'en réalité, il ne devrait pas avoir de surprise dans la vie du croyant. Le croyant édifié n'a pas de surprise dans sa vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout expliqué dans son livre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédit. Nous serons toujours éprouvés, quel que soit notre niveau. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, nous allons vous éprouver. ولنبلونكم. اللام هنا لام التأكيد. والنون نون التأكيد. يعني c'est une confirmation. Parce que le lam ici indique la confirmation. Et le nun indique la confirmation, alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la base est vérité. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala apporte tous ces lettres qui indiquent la confirmation, c'est pour nous montrer l'importance de la chose. Et pour qu'on sache que c'est ainsi que les choses vont se passer. Allah ta'ala wa lanabluwannakum, nous allons vous éprouver. Bishay'in min al-khawf. Par quelque peur, والجور, la famine, ونقص من الأموال والأنفس, la perte des biens, des moyens, وبشر الصابرين, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Donc vous voyez ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit un accès d'adoration pendant ces épreuves. L'attitude que nous devons adopter lors de ces épreuves. Donc on peut dire que, comme nous avons commencé, nous avons l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire comme il se doit dans toutes les situations. Et il faut savoir que la période des troubles a une particularité dans la vie du croyant. Voilà pourquoi dans le hadith de Ma'qal ibn Yasar, radiallahu anhu, qui a été rapporté par Muslim, et bien d'autres rapportés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibadatun fil harji, wa fi riwayat al-Tirmidhi, Ibadatun fil harji, wal fitna ka hijratun ilayya. Allahu Akbar. Dans ce récit authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, l'adoration en temps de trouble est comparable à l'immigration vers moi. La hijra vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui indique la preuve de l'adoration en temps de trouble. Parce qu'en temps de trouble, les gens, généralement, perdent les données. Les gens plongent dans Al-Ghafla. Non? Les gens plongent dans l'insouciance. Et c'est pour ça que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit en temps de trouble, a cette place. Et cela nous indique la place qu'occupe ce genre d'assises pendant la période du trouble. Parce que ça, ce sont des assises d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes réunis ici, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la recherche de la science est une adoration prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de façon obligatoire. Donc c'est une obligation. Et alhamdulillah, nous nous sommes réunis dans une maison parmi les raisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا ويعلمه كان له كأجر حاج تام الحجة الله أكبر. Dans ce récit authentique d'Abi Umamة al-Bahili رضي الله عنه, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque emprunte le chemin de la mosquée n'ayant pour seule intention que d'apprendre un bien ou de l'enseigner, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense d'une personne qui a parfait son pèlerinage. Allah lui accorde la récompense d'une personne qui a parfait son pèlerinage. Savez-vous ce que c'est que la récompense d'une personne qui a parfait son pèlerinage? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Un pèlerinage bien accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Alors que celui qui n'avait pas encore cette intention d'après. Parce que si nous purifions notre intention, et si nous ne restons ici, dans cette maison, parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dans le but d'apprendre un bien ou de l'enseigner, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Et c'est là la réussite absolue. La réussite absolue, c'est échapper au châtiment de l'enfer et accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. Quiconque échappe au châtiment de l'enfer et est introduit au paradis aura fait ses réussites. Donc la réussite absolue, c'est accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui ne sont sortis que pour apprendre ou d'enseigner un bien. Donc voilà deux hadiths qui nous indiquent l'importance de ce genre d'assises. Et je crois que si nous comprenons l'importance de ce genre d'assises, je crois que qu'elle va se pérenniser. Je parle de cette assise parce que nous avons besoin de ce genre d'assises. Déjà, nous avons besoin des récompenses. Parce que nous vivons dans une société où même celui qui fait l'effort, quel qu'en soit son niveau d'effort, finit toujours par commettre des turpitudes, même quand il ne veut pas. والله الذي لا إله غيره. Si on nous annonçait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous jugera que sur les méfaits de nos regards, sur les péchés de nos regards, je ne suis pas sûr qu'on s'en sortira. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous juge que sur les péchés de nos regards, je ne suis pas sûr qu'on s'en sortira. Alors que la réalité, c'est que nous serons jugés par rapport à tous nos membres. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Certes, la vue, certes lui, la vue, et tous les autres membres seront interrogés le jour de la résurrection. Alors que nous ne pouvons même pas dénombrer les péchés commis par nos yeux, par nos regards. Donc nous avons grandement besoin des actes d'adoration, des bonnes œuvres, pour que ces bonnes œuvres essuient ces péchés-là. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Parce que les bonnes œuvres essuient les mauvaises. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Crains Allah سبحانه وتعالى où que tu sois. وأتبئ السيئة الحسنة تمحوها. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui les suivra. Donc, quand on se retrouve ici, après tout ce que nous avons fait comme péché, ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est un bien pour nous, parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette assise, expie nos péchés et fasse nos mauvaises œuvres. Donc, tout ceci pour nous montrer l'importance de ces jours d'assises et nous encourager à endurer, parce que ce n'est pas facile. Nous allons enchaîner cette série d'assises pendant 3 jours. Il va falloir endurer pour qu'on arrive à terme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force d'endurer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance afin que nous puissions regardez et afin que nous puissions viser les mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala pour ces jadassis. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa mastama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'entretient mutuellement et échange sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherche à s'édifier sur cette parole les uns des autres, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les fasse envelopper par la quiétude. Allah fait descendre sur eux la quiétude. Ordonne aux anges de les entourer. Et Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe par sa miséricorde. وذكرهم الله في من عنده في الله سبحانه وتعالى لفانت auprès de ceux qui sont auprès de lui, auprès des anges. Mais malgré tous ces mérites, vous constatez avec moi qu'on s'adonne très peu aux assises de science. C'est un problème sérieux. ويومبي وبشر. C'est un problème sérieux qui annonce, qui est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Que malgré tous ses mérites, subhanallah, comment est-ce qu'un croyant peut comprendre
tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ce genre d'assises accorde le paradis à un serviteur ne soit pas assidu à ce genre d'assises. Vous ne voyez pas qu'il y a problème? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Et quel est le but que nous cherchons à atteindre nuit et jour? Allah nous a créés pour l'adoration. Et nous voulons accéder à son paradis, à son agrément. Or, la voie la plus facile qui mène à l'agrément, qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie de la recherche et de la science. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بها طريقا الى الجنه. Quiconque emprunte le chemin de la recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par cet accès l'accès au paradis. C'est-à-dire le fait qu'il a emprunté le chemin de la recherche de la science. Subhanallah. Et regardez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas dit que s'il lui accorde la science, il lui facilite l'accès au paradis. Allah le récompense et lui facilite l'accès au paradis. Pourquoi? Pour avoir emprunté le chemin de la recherche de la science. Ça, c'est ce qui est attendu de toi. Quant au niveau des sciences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera, cela dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est attendu de toi, c'est ton effort. Et c'est cet effort que nous ne fournissons pas. Et c'est là le problème. On ne te demande pas d'être Cheikh Bembal. On ne te demande pas d'être Cheikh Al-Albani. Mais emprunte le chemin de la recherche de la science. Ne sois pas de ceux qui n'ont pas un jour réservé pour la recherche de la science au cours de la semaine. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. La cause au bien de ce bas monde. Vous a plongé dans l'insouciance. Vous a amené حتى زرتم المقابر jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Jusqu'à ce que vous mourrez. نعم. Ce verset concerne celui-là qui n'accorde pas du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la recherche de la science. Alors qu'en réalité, on ne peut réellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que si on le connaît. Que si on sait comment, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons toujours dit qu'il ne suffit pas seulement d'adorer Allah, mais de l'adorer comme il se doit. Et c'est là qu'il y a problème. S'il suffisait seulement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça aurait été légitime. Mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est qu'on l'adore comme il se doit. Et cela ne peut passer qu'à travers la science. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout croyant. La recherche de la science est une obligation pour tout croyant. Subhanallah. Pour tout musulman. En quelque sorte, c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths disait: si tu es musulman, recherche la science. C'est-à-dire que la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Comme si celui qui ne recherche pas la science n'était pas musulman et n'était pas concerné par la science. Et ceci nous indique l'importance de la recherche de la science. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala attend de chacun d'entre nous, c'est qu'il établisse la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il établisse la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une obligation pour les savants seulement. Ce n'est pas une obligation pour les dirigeants seulement. C'est une obligation pour tout croyant. قال الله تعالى شرع لكم من الدين. انتبهوا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو هذا الدين؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a légiféré pour vous en matière de religion. Écoutez bien le début du verset. Shara'a lakum min ad-din. Allah a légiféré pour vous en matière de religion. Donc ce qui suit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous en matière de religion. Shara'a lakum min ad-din ma wasta bihi Nuhan. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. Et méditez bien sur ces versets et sur le statut de tous ceux qui seront cités dans ce verset. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan. Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. والذي أوحينا إليك إسكنوا تبون رجليه وتوا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم إسكنوا تبون أنجوان فإبراهيم وموسى وموسى وعيسى جيزو كيف إسكنوا الله سبحانه وتعالى لرزان أنجوان إكلا لجدري فنوس أما جدر الجنة أن أقيم الدين إتابيث la religion d'Allah ولا تتفرقوا فيه et ne faites pas insuffer les divisions. C'est une obligation pour tout croyant. Et méditez bien comme j'ai dit sur le statut de tous ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset. Ce sont ceux qu'on appelle ulul azmi min ar-rusul, les doués de détermination parmi les envoyés. Ça veut dire que parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'établisseront la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui sont doués de détermination. Et ça veut dire que chaque croyant faisant partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se doit de faire partie des doués de détermination. Nous devons être déterminés à établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-ulama أعلى المفسرين قالوا إقامة الدين إقامة الدين على النفس وإقامة الدين على الغير. L'établissement de la religion c'est établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi et ensuite l'établir en l'autre. Donc on ne pourra établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on si on l'établit en soi-même, ensuite on l'établit en l'autre. Et les dieux ne peuvent passer que par la science. Pour établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi, on a besoin de la science. Et pour établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'autre, on a besoin de la science. Parce qu'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi, face à l'istiqama. Le fait de se préserver sur la voie droite. On n'y arrivera que si on est muni de la science nécessaire pour y parvenir. Et établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par la da'wa. Et on n'y arrivera que si on est muni de science. قال الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Appelle vers la voie de son Seigneur. بالحكمة par la sagesse والموعظة الحسنة. Et l'exhortation, et la belle exhortation. Ce n'est possible que lorsque l'on est muni de science. Voilà pourquoi il a enjoint au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui clarifier sa voix. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انتبهوا أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته مبنية على البصيرة. Dans ce verset, Allah سبحانه وتعالى dit il s'adresse au noble prophète, c'est-à-dire annonce à ta communauté
هذه سبيلي voici ma voie ad'u ila Allah j'appelle vers Allah ala basira
ne basant sur la science
ana wa man ittaba'ani moi ainsi que ceux qui me suivront
donc tous ceux qui suivront le prophète Mohammed sallam bâtissent le da'wah sur la science.
Que ce soit la da'wah obligatoire ou la da'wah surrogatoire. Parce que la da'wah obligatoire, c'est appeler ses proches, c'est orienter ses enfants sur le droit chemin et les encadrer sur ce chemin. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا vous qui avez cru, préservez votre propre personne du feu de l'enfer ainsi que vos familles. Tu dois être préservé du feu de l'enfer en établissant la religion d'Allah en toi-même. Et tu dois préserver les autres, ta famille, en établissant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta famille. Elle est dépassée par la science. C'est pour ça que ta miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a rendu le fait de lui implorer, de lui demander de nous guider sur la voie de la richesse de la science obligatoire. Par miséricorde d'Allah, il a rendu cette demande obligatoire aux croyants. Parce que le croyant est faible. Parce qu'il est injuste envers lui-même. Et parce qu'il est ignorant. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui avait pas rendu cette demande obligatoire, il l'aurait négligé. Pourtant, sa vie n'aura pas de sens sans cette demande. C'est pour ça que nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim, au moins 6-7 fois par jour. Ihdina as-sirata al-mustaqim, au moins 17 fois par jour. Méditez sur ce que je vais vous expliquer. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette demande obligatoire? C'est par miséricorde, parce que nous ne pouvons pas nous en sortir sans la science. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Savez-vous que le droit chemin, c'est le chemin de la science? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits. Écoutez bien, le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits. Ça, c'est la qualificative donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à ce chemin. Qui sont ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a répondu. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. Quiconque obéit à Allah et à son messager, c'est avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé par ses bienfaits, مِنَ النَّبِيِّينَ, parmi les envoyés. Donc, la voie droite, c'est la voix des anges, des envoyés. Et qui est à la tête des envoyés et en même temps notre modèle? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'était la voix de la science. C'est pour ça que le premier verset qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rapport avec la science. Quel est le premier verset qui a été révélé? Le Coran. Lis. Donc, la première révélation est un rapport avec la science. Parce que quand on te demande de lire, en réalité, on te demande d'apprendre. Le Coran. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ je ne sais pas lire. Est-ce que ça a été une excuse suffisante pour que je puisse l'abandonner et aille chercher un autre? قال اقرا lui a dit قال ما انا بقارئ je ne sais pas lire. Il lui a dit lire.
Il a dit, ma'ana biqari. Alors, il l'a tiré. Puis, à ce moment, le prophète sallam a compris que c'était vraiment furieux et qu'il fallait qu'il lise. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité et l'a lu. Vous voyez l'importance de la science? Voilà la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment la révélation a commencé par la science. Et c'est pour ça que le prophète sallam voyait Jibril comme son enseignant. بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل راجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في السنة التي مات فيها. Le prophète a révisé le Coran avec son enseignant Jibril عليه السلام l'année où il est mort deux fois. Donc la voix du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم c'est la voix de la science. C'est même pour ça que dans le verset, il a dit « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي » Dis, voici ma voix, j'appelle vers Allah. « عَلَى بَصِيرَةٍ » Mais basant sur la science. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voix de la science. Ça c'est la première catégorie des adeptes du droit chemin. قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Là commence par ces prophètes والصديقين. Les véridiques. Qui a la tête des véridiques? Non? Abu Bakr al-Siddiq. صديق هذه الأمة. C'est le prince des croyants. Ou alors le calife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et c'était le plus savant après le prophète Muhammad sallam. C'était le savant de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que pour juger le degré de science d'une personne, il faut l'observer en période de trouble. Islamiquement, pour juger le degré de science d'une personne et savoir qu'il est acquis, il faut l'observer pendant la période de trouble. C'est pour ça qu'il y a certains savants, l'ulama et Apollon, la yurja ilayhim illa al-fitan. Qu'on ne retourne pas vers eux lors des épreuves. Ça veut dire que lors des troupes, ils ont été jugés. Et on a constaté leur inefficacité pendant les troubles. لأن الفتن إذا حلت ونزلت لا تثبت إلا أقدام الراسخين في العلم. Parce que lorsque les troubles frappent une communauté, ne résiste que ceux qui ont des pieds solides. Et ce sont les détenteurs des sciences. Donc, parmi les preuves qui témoignent de la science d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, et qu'il était le plus savant de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que même Omar radiallahu anhu, le prophète a dit que si la révélation devait descendre sur quelqu'un après lui, ça aurait été Omar. Celui qui comprend ce hadith peut se tenir pourquoi on classe Abu Bakr avant Omar en matière de science. Pourtant même le prophète sallam de son vivant a demandé à Abu Bakr de prier en sa présence. Mais il a dit ce que nous avons entendu de Omar. Alors qu'est-ce qui montre clairement qu'Abu Bakr avait plus de sens que Omar et qu'il était plus assis? Et les deux sont tous à l'al-ain wa ra'at indana.
Ma'ashira Ahl Sunnah. Les dieux sont au-dessus de nos têtes. C'est qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était la première grande épreuve qui a frappé la communauté musulmane. La première grande épreuve qui a frappé la communauté musulmane, c'est la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بل هي أعظم المصيبة أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا فوقوا dans un hadith authentique le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a recommandé à quiconque est éprouvé de se rappeler de sa mort. Parce que quelle que soit l'épreuve que tu subis, elle ne peut pas atteindre le niveau de la perte du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Parce qu'il était une miséricorde pour l'humanité tout entière, rien que sa présence était pour beaucoup. Y a-t-il eu d'innovation à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ana amanatun li ummati, ana amanatun li ashabi, fa idha dhahabtum atahum ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idha dhahabu ata ummati ma yu'adun. C'est une préservation pour mes compagnons. Et lorsque je partirai, ils seront attaqués. Et mes compagnons sont une préservation pour ma communauté. Et lorsqu'ils partiront, ils seront attaqués. La communauté sera frappée. Donc, la première grande épreuve, c'était la disparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est mort, c'était le trouble total. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a sorti son épée, et a dit que c'est lui qui dit que le prophète est mort. Avant qu'il n'ait fini, il va le rejoindre. C'est-à-dire qu'il va le tuer, il va trancher sa tête. Vous voyez le trouble? Ils avaient la tête en l'air. Mais Abu Bakr radiallahu anhu n'avait pas la tête en l'air à cause de la science. Il est arrivé quand les gens étaient plongés dans ce trouble. Ils ne savaient plus de quel côté s'orienter. Chacun avait sa propre opinion de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, en réalité, personne n'acceptait qu'il est réellement mort. Abu Bakr est arrivé. Regardez déjà. Lorsqu'il est arrivé, Omar était en train de parler et en train de brandir les menaces. Il a dit, autre côté à Omar. C'est toi, Omar. Déjà, lorsque les gens l'ont vu, ils ont ressenti quelque chose. Chacun quelque part s'est calmé parce qu'il est arrivé avec un comportement autre. Il avait le comportement de celui qui avait réellement compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait rempli sa mission et qu'il était mort. Et que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala devait continuer sans lui. C'est pour ça qu'il est arrivé. Il est allé de faire le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'a embrassé. Il a dit c'est hayyan wa mayyitan. Ce n'est qu'une belle créature. Tu es une belle créature vivant comme mort. Il est allé monter sur la chair. Les gens se sont réunis autour de lui. Il a fait la muqaddima. Il a dit من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Vous voyez l'importance de la science. Il est monté sur la chair, il a dit celui qui adorait Muhammad alors qu'il sache que Muhammad est mort. Celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant par excellence, qu'il ne meurt jamais. Une parole
bâti sur la science, sur les textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a cité les versets qui parlent de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Certes, tu n'es qu'un mort et ils ne sont que des morts. Et c'est là que les compagnons ont compris que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mort. Ce que j'ai voulu qu'on comprenne dans cette histoire, c'est la place de Abu Bakr, qui est celui qui entre en premier dans le verset. Pour se dire, le véridique, c'est le premier véridique. Et tous les véridiques ne pourront accéder à cet attribut que s'ils suivent Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Yani, tu ne pourras être un véridique que si la véracité de ces actes s'accorde aux actes d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Tu ne pourras être véridique qu'à travers lui. C'est pour ça que ceux qui s'attaquent à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, en réalité veulent détruire l'islam. Parce qu'Abu Bakr est un pilier dans l'islam. Tu ne peux pas être un Siddiq si tu ne suis pas Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Si tu ne reconnais pas et crois fermement qu'il est Awwal Siddiq, qui est le premier véridique. فهو أول من آمن وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le premier qui a cru et le premier qui a été qualifié par le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que quel que soit ton degré de vérité, de véracité, tu ne pourras atteindre le degré de Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه. Voilà, pour les hal, ce que j'ai voulu qu'on retienne ici, c'est qu'Abu Bakr al-Siddiq était un savant. Et c'était le savant de la communauté après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la deuxième personne. La première personne, c'était le prophète sallam. Et vous êtes d'accord avec moi que sa voix, c'était la voix de la science. La voix d'Abu Bakr, c'était la voix de la science. Wa siddiqina wa shuhada. من هم الشهداء؟ الماتي، كيسون لكني ماتي؟ لكمبانيون جبرة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إسك لكمبانيون جبرة صلى الله عليه وسلم إتي دزينيورا أبدا. كانوا يحرصون أشد الحرص على العلم. Ils étaient assidus à la recherche de la science, si bien que lorsqu'ils ne pouvaient pas assister à toutes les assises, écoutez bien, parce que nous devons tirer des enseignements. Lorsque les compagnons du prophète sallam ne pouvaient pas assister à toutes les assises du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils s'alternaient dans les assises. Yani, il y en avait qui étaient des commerçants, alors ils s'entendaient, deux commerçants s'entendent. Il dit que cette semaine, c'est moi. Je vais aller au marché, faire le marché. Et toi, tu vas aller t'asseoir et prendre la science. Et quand tu vas revenir, on va se partager cette science. Et la semaine prochaine, je vais aller, toi, tu vas aller à la recherche de ta subsistance. Tout ceci parce qu'ils avaient compris l'importance de la science. Donc, même à Shuhada, tariqatuhum, tariqatul ilm. Donc même les Shuhada, leur voix c'est la voix de la recherche de la science. Mustalihin. Haulaï kama alladhina annama allahu alayhi min al-nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin. Les pieux. Qui sont les pieux? Ceux qui font les efforts, les bonnes œuvres. Ce sont ceux qui font les bonnes œuvres. Maintenant, Est-ce que vous savez que même pour faire les bonnes œuvres comme il se doit, il faut passer par la science. Il faut absolument passer par la science. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Faire ceux qui ont cru et font des bonnes œuvres, ceux-là sont la meilleure création d'Allah سبحانه وتعالى. أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. Vous avez compris quelque chose? Méditez bien. Je veux qu'on arrive à un point. Qu'on comprenne que même As-Salihou, ce sont ceux qui ont emprunté le chemin de la science. À travers les versets que nous avons cités. Allah dit, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ Leur récompense auprès d'Allah. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les récompenses, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ Méditez bien. Il a dit, cela appartient à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, prenez ce verset et envoyez à l'autre. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ طَرِيقَةَ الصَّالِحِينَ طَرِيقَةَ الْعِلْمِ À la fin du verset, Allah dit, ذَلِكَ Tout ce que nous avons cité, l'imam Khashi ya Rabba, appartient à ceux qui craignent le Seigneur. Et dans l'autre verset, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء Personne ne craint Allah parmi ses serviteurs que les savants. Donc, ça veut dire qu'il est établi que nous ne pourrons pas nous en sortir sans science. Nous devons nous adonner à la richesse de la science. Donc, je crois que maintenant, nous sommes unanimes que Aspiratul Mustaqim, c'est le chemin de la richesse de la science. C'est le chemin de la science. Siratul Ladina Al-Amta Alayhim, nous l'avons suivi qui sont ces gens-là. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc, c'est par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de lui faire cette demande chaque jour et au moins, et c'est au moins 17 fois. C'est parce que nous ne pouvons pas s'en faire. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Maintenant, regardez la qualité de cette science. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم Et non la voix de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont ceux-là? Non? Al-Yahoud. Ce sont les Yahoud. Parce qu'ils détenaient la science sans mettre en pratique cette science-là. Ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que ces versets ne concernent pas seulement les Yahoud. Les savants disent que celui qui détient une science sans la mettre en pratique a proportionnellement encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala proportionnellement à sa science et ce qu'il a délaissé de cette science. Surat al-Ladina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, et non le chemin des égarés. An-Nasara, al-Ladina ya'budun Allah ala jahl, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance, avec ignorance. Donc, nous devons éviter la voie de ceux qui ne mettent pas en pratique leur science. Ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ya ahla sunnah, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi parlez-vous de la sunnah alors que vous n'avez pas encore appliqué la sunnah comme il se doit? كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
Kabura maqtan inda Allah. La colère est grande auprès d'Allah. Antakoulou ma la taf'aloun. Du fait que vous disiez ce que vous dites, ce que vous ne faites pas. Donc c'est quelque chose de grave. On doit s'en mettre en pratique ce qu'on fait. Et une vraie conscience. Donc, on ne pourra pas aussi que si nous recherchons la science et nous œuvrons, nous œuvrons en fonction de cette science. Oui. Maintenant que nous avons compris que la voie que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, c'est le chemin de la recherche de la science. Je vais vous poser une question avant de chuter. Et que chacun réponde. Que pensez-vous d'une personne qui prie chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde l'enfant, des beaux enfants, des enfants en forme, sans jamais se marier? Non, je veux que tout le monde réponde.
Il n'aura pas cet enfant.
C'est sûr.
Oui.
Mais que pensez-vous de lui? C'est quoi? Qu'est-ce que pensez-vous de cet acte? Un frère dit que se moque de lui. Mais qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas sérieux. Père dit qu'il est hypocrite. Non.
Il n'a pas la science.
Oui, mais que dites-vous de son comportement? Comment pouvez-vous qualifier ce comportement?
Il n'est pas normal.
Il n'est pas sérieux. Il n'est pas conséquent.
Il n'est pas réaliste.
Non, pas vous. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Il n'a pas vraiment besoin d'enfants. D'aucuns diront même qu'il est fou. De tout ce que nous avons dit, je crois que nous sommes unanimes. Que tout ce que nous avons dit est à sa place. Il n'est pas normal. Il n'est pas sérieux. Il se moque de lui-même. N'est-ce pas? Il ne sait pas ce qu'il cherche. Je veux que vous ayez le courage de donner la même réponse quand je vais poser la question suivante. Que pensez-vous d'une personne qui demande au moins 17 fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala de l'orienter vers le chemin de la recherche de la science sans jamais aller étudier? Non? Ayez le courage, assumez. C'est ça, nous sommes partis d'une base. Maintenant, vous ne pouvez plus échapper au jugement et à la sentence. Vous avez vous-même donné notre propre. Nous nous sommes nous-mêmes jugés. Nous ne sommes pas normaux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde a déjà fait ce qu'il avait à faire pour nous. Il nous a prescrit, il nous a enjoint de lui faire cette demande chaque jour. Il nous a promis de répondre. Qala Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah nous a ordonné. Il nous a prescrit de lui faire cette demande chaque jour et au moins 17 fois. Il nous a promis de répondre. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est à son niveau, il l'a promis. Il l'a fait. Mais c'est nous qui n'avons pas fait notre devoir. Parce que lorsqu'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit faire les causes. On doit faire les causes. Et c'est ces causes que nous ne faisons pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour ihdina as-sirat al-mustaqim, mais sans jamais prendre le chemin de la recherche de la science. Vous savez qu'il y a problème chez frère. Et le problème, il est profond. Parce que nous devons méditer pour comprendre la profondeur de ces problèmes sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a créé mieux que ce que ce soit. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir.
Celui qui a créé n'était-il pas? Alors qui sait? Alors que son expérience a envers toutes choses, même les choses les plus minimes. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit de lui faire cette demande chaque jour, c'est parce qu'il sait, il sait le besoin que nous avons vis-à-vis de cette demande. Mais seulement nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sans faire les courses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse sortir de l'insouciance. Donc nous avons besoin de la science et d'emprunter le chemin de la recherche de la science. Donc voilà pourquoi dans un hadith authentique, hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin. Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wa man lam yuridillahu bihi khayran la yuwaffiquhu aw la yufaqqihu fi ddin. Hadha ma'na al-hadith bi mafhum al-mukhalafa. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour un serviteur, il lui accorde la science dans sa religion. La compréhension de la religion, la maîtrise de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïf. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour tout le monde, sauf ceux qui refusent d'accéder au bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut le bien pour tout le monde, sauf ceux qui refusent. Comme le prophète sallam a dit que tout le monde ira au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour tout le monde. Il veut que tout le monde accède au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. Qui sont ceux qui ne veulent pas? Ceux qui ne suivent pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith que nous avons cité, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin. Lorsqu'Allah veut le bien pour un serviteur, il lui accorde la compréhension, la maîtrise, la science dans la religion. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit, mafhoum al-mukhalafa de ce hadith, c'est que, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le bien pour un serviteur, il ne lui accorde pas la science de la religion, la compréhension de la religion. Alors, qui est celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, pour qui Allah ne veut pas le bien? C'est celui qui refuse d'accéder au bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celui qui n'emprunte pas le chemin de la recherche de la science. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la recherche de la science à quiconque veut aller à la recherche de la science. Il y a un téléphone qui parle. Donc, nous avons besoin de la science. Et parce que le simple fait d'emprunter le chemin de la recherche de la science est une marque de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettre en pratique. Parmi les choses, ou alors les textes qui nous indiquent la place de ce jadatis, c'est que dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui attend une prière dans la mosquée est considéré comme une personne qui prie jusqu'à ce qu'elle effectue cette prière. Et nous allons attendre la prière de Maghrib, Inch'Allah, attendre la prière de Isha et dans les biens. Allahu Akbar. Tout ceci, c'est pour nous motiver, parce que je vois déjà la fatigue sur le visage de certaines personnes. Et c'est ce que certaines personnes envisagent déjà de partir. Nous devons patienter. Et un jour, Abu Hurayra radiallahu anhu est allé au marché. Pendant qu'il y avait une assise comme celle-ci, il a vu ceux qui étaient en train de,
de faire le commerce au marché. Je leur ai dit, ماذا تفعلون هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في المسجد. Que faites-vous ici alors que l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué dans la mosquée? Alors imaginez ce qu'il y a eu. Qui peut entendre que l'héritage du prophète est en train d'être distribué à la mosquée sans s'y rendre? C'est ce que les gens ont fait. Et c'est un signe de bonheur, c'est un signe de bien. Ça veut dire qu'il y a encore de bien. Quand on entend que l'héritage, quand on entend que l'héritage du prophète sallam est en train d'être distribué, donc ils ont couru vers la mosquée. Ça, ils sont entrés, ils n'ont rien vu. C'est pour ça que islamiquement, quand on parle de voix, ce n'est pas observé. C'était être éclairé par la lumière du kitab et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comprendre selon les pieux prédécesseurs. C'est ça être éclairé. Donc ces personnes-là, lorsqu'ils sont entrés dans la mosquée, ils n'étaient pas éclairés parce qu'ils n'ont pas vu. Pourtant ils étaient voyants. Mais ils n'étaient pas clairvoyants. Parce qu'ils n'ont pas vu l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des égarés, des mécréants dans le Coran, yafihum fi summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hum kal an'am bal hum abal. Ils sont comme des animaux, ils sont même vies. Pourquoi? Parce qu'ils sont summum. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas. Mais ça veut dire que ils n'écoutent pas la bonne parole comme il se doit. Ils ne comprennent pas les tests à la compréhension des plus prédécesseurs. Donc en réalité, c'est comme si leur « i » ne leur a pas été utile. Et c'est pour ça qu'ils sont pires que les animaux. Quand ils sont entrés dans la mosquée, ils sont ressortis. Et Abu Huraira attendait, ils savaient. Ils savaient qu'ils allaient revenir. Ou alors que quelqu'un allait revenir. Ils disent, nous sommes entrés dans la mosquée, on n'a rien vu. Elle dit, oui, Hakum. Malheur à vous. Donc vous ne savez pas ce que c'est que l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les prophètes n'ont pas délaissé les dinars et les dirhams, l'euro et le sefa, le dollar, c'est pas ça qu'ils ont laissé à la communauté. لأن هذا شيء مضمون. Ça c'est quelque chose qui a été garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla an takhruja ya Abdallah, urikuka madmounun inda Allah. Maktoub, la yadhhabu minhu shay'. Avant que tu ne naisses, ta richesse avait déjà été inscrite, prescrite et garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, tu ne recherches qu'une chose, prescrite. C'est pas ça que le prophète sallam vous a dit. Walakin, les envoyés ont laissé la science. Hada al-nur. Alladhi anzalahu Allah. Cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. La science, c'est ça que les envoyés ont laissé. Et c'est ça leur héritage. Maintenant, nous savons tous ce que c'est que l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chacun de voir quelle quantité a-t-il besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettre en pratique. Donc, cette brève introduction, chers frères, c'était pour nous parler de l'importance de ce jihad d'affaires. Et si le prophète sallam a dit dans le hadith
premier hadith que nous avons cité, le hadith d'Imam Abd al-Ibn Yasar. Ibadatun fil haraj wal fitna ka hijratun ilay. Si l'adoration entend des troubles à ces degrés, c'est parce que, comme nous l'avons dit, l'adoration entend des troubles à quelque chose de particulier. Ce ne sont que ceux qui sont attentifs, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en temps de trouble, qui continuent à rechercher la science, qui continuent à se comporter comme il se doit, qui ne se laissent pas emporter par leur passion, qui ne se laissent pas emporter par leur colère, qui ne répondent pas aux attaques des autres. Donc, en réalité, nous sommes en train de faire quelque chose d'une importance capitale dans notre vie ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous les mérites de ce genre d'assises. Oui, je crois que comme le mozakirat ont tardé à arriver, on va devoir commencer en attendant quelque chose à faire de près. Oui. Le thème central de ce séminaire, c'est Khafa'itu Manhaj Ahli Sunnah wa Jama'a, les caractéristiques et les particularités de la voix des gens de la Sunnah du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici à l'introduction, il est dit إن أمة الإسلام اليوم تعيش أزمة خطيرة جدا مع تغيبها عن مصدر التلقي الشرعي لها وبالتالي تخبطها في منهجية التطبيق فتوسع الخلاف بين الأمة واستحكمت بذلك مظاهر الفرقة وصرخت في جنابتها أصناف شتى من الجماعات والحزبيات فأصبح كل حزب بما لديهم فرحون وكل منهم يدعو لمنهجه ويروج لبدعته ويلبس ذلك بلبوس الحق. ولذلك لازم أهل المنهج الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف أن يرفعوا رايتهم بالحق وأن يؤلموا منهجهم وأن ينشروا عقيدتهم ليتمسك بها أتباعهم ويهتدي بها من ضل عن طريقهم ممن شاء الله أن يهديه. Donc dans l'introduction, on nous parle ici de la situation ou alors de la réalité que nous vivons au quotidien. Et cette réalité, c'est que la communauté musulmane taïche fait azma khatira jidden. Nous vivons, yani, al-azma, je ne sais pas comment, al-azma, qu'est-ce? Al-azma, Non, Azma, subhanallah. Une crise.
Okay.
Al-Azma, c'est la crise.
Non.
Azma khatira. Nous vivons une crise dangereuse. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné les sources. Et c'est à cause de cet abandon et la mise en pratique des enseignements du Coran et de la Sunna que nous sommes retrouvés dans cette situation. Fatawassa al-khilaf bin al-umma. Et c'est pour la même cause que les divergences se sont élargies parmi les adeptes ou alors parmi les adeptes de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens se sont divisés en plusieurs factions. Et chacun prétend être sur la vérité. Et appelle les gens à sa fraction. Oui, oui, là, dit tout ça, il y a la bouche de l'harp. Et chacun prétend être sur la vérité et essaye d'habiller ce sur quoi il est par la vie de la vérité. ولذلك لازم أهل منهج الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف أن يرفعوا رايتهم للحق. Donc ici on dit que c'est pour cette raison que les adeptes de la voie du juste et du juste, la voie de la vérité, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pour obligation أن يرفعوا رايتهم للحق. Ils ont l'obligation, en cette période des troubles, de lever le drapeau de la vérité. Ils doivent clarifier leur voie, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent répandre le dogme. Afin que ceux qui les suivent dans cette vérité s'y cramponnent. Et que recherche la guidée, c'est lui, Naam, qui suit cette voie à travers cette, yani que, وَيَهْتَدِي بِهَا مَنْ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِهِمْ. Et que celui qui est soumis à cette voie, Naam, recherche la guidée à travers ses dogmatures. مِمَّنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ يَهْتِيَهُ فَمِنْ سُلْكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى a voulu guider. فمن الضروري رفع راية أهل السنة والجماعة وإيضاح حقيقة منهجهم حتى لا تختلط برايات أخذت ترفع صوتها أو ترفع صوتها عاليا بكل قوة وكأن الحق معها. الله أكبر. دونك فمن الضروري تغليف دونك دو الضرورة على نسيتيه que les adeptes de la sunna lèvent le drapeau de la sunna et qu'ils exposent la vérité hatta la tahtalit birayat ukhra, afin que la vérité ne soit pas mélangée au faux. Non, afin que la vérité ne soit pas confondue au faux. Parce que comme vous le savez, il y a des groupes ces jours qui lèvent leur voix et revendiquent être des adeptes de la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'être sur la vérité. Et ce, avec la dernière énergie. Donc, si quelqu'un est dans le faux et se comporte de cette façon, comment est-ce que celui qui est sur la voie authentique se doit de se comporter? ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. Ne vous affligez pas, ne vous affligez pas. وانتم الاعلون. Alors que vous êtes les supérieurs. ان كنتم مؤمنين. Si vous êtes des croyants. Si nous sommes croyants, nous sommes des supérieurs. Nous devons lever notre tête. Nous devons lever le drapeau de la vérité et clarifier la vérité afin que les choses se clarifient et que la vérité ne se confonde pas au mensonge. لأن دين الإسلام بني على هذا فكل religion de l'islam a été bâti sur cette base, sur la déclaration, sur l'affirmation de la vérité et le rejet du faux et la mise en garde contre ce dernier et la mise en garde contre celui-ci. C'est sur cette base que l'islam a été bâti. C'est pour ça que l'islam a jailli dans une communauté de polythéistes pour appeler le monothéisme pur en mettant en garde contre le polythéisme. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وحده. Et c'est pour ça que le prophète sallam a commencé la da'wa tout seul au milieu d'un peuple de polythéistes. Mais le fait qu'il soit seul ne l'a pas empêché de lever la tête et de dire la vérité et d'appeler les gens vers le monothéisme pur et de les mettre en garde contre le polythéisme. C'est pour ça que Kalimat Shahada
متكون من شقين النفي والإثبات، نفي الباطل ورده وإثبات الحق. L'attestation de la foi est composée de deux choses. La négation et le rejet. La ilaha, c'est la négation. Il n'y a point de divinité. On rejette toutes les divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur base que la religion de l'islam est bâtie. Sur le refus, le rejet de tout ce qui est faux. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est faux. Parce que tout ce qui est faux dérive du shirk. Tout ce qui est faux dérive du shirk et du faux. Donc ce sont les branches. C'est pour ça que les péchés et le mensonge, l'âme sont les branches du shirk et du kufr. Ce sont les branches de la mécréance et de l'association. Donc, l'islam est bâti sur le rejet et la négation de tout ce qui est faux. Et l'affirmation de ce qui est vrai. Là, il n'y a point de divinité digne d'adoration. À part Allah, l'affirmation de ce qui est vrai et authentique. Donc, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le Coran al-Furqan, لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد وبين السنة والبدع وبين الحق والباطل. الله أفضل القرآن الفرقان للدسيرنمان parce qu'il divise et sépare le vrai du faux, la tawhid du shirk, la sunna de l'innovation, le vrai du faux. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا طرف بينكم سيسيان جيزير فاميكم وكما قال صلى الله عليه وسلم سي ديفيز لي بيان دي موفيز جي سيبار لي بيان دي موفيز et c'est comme ça que se doit être tout ceci suivant le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il doit confirmer ce qui est authentique et appeler vers lui et résister tout ce qui est faux. ومن المهم كذلك بيان سمات ومعالم منهج أهل السنة والجماعة. وهذا جميل يا إخوة. Il est également important et relève de la nécessité du fait d'exposer les caractéristiques, les particularités, les signes, les attributs des adeptes de la sunna, afin que tu ne te sentes pas content alors qu'en réalité tu ne fais même pas partie des gens de la sunna. Parce que c'est ce qu'on va faire ici. Nous allons nous rendre compte que il ne suffit pas de s'appuyer à la sunna, mais d'être insoumis, d'être réellement insoumis. Parce qu'on peut s'appuyer à la sunna sans jamais faire partie des adeptes de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il y a problème. Et c'est là que nous devons avoir peur. Qui a fini, c'est plus que pendant toute ton existence, alors pendant toute notre existence, qu'on s'affilie à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on ne fait pas partie des adeptes de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète avait mis en garde ses propres compagnons en disant Mangariba en sunna qui fallait s'animer, qu'en est-il de nous? Quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. C'est comme ça que le prophète sallallahu avait dit à ses compagnons là. Si cette parole avait été orientée vers les compagnons, les nobles compagnons du prophète sallallahu, qu'en est-il de nous? Donc c'est pour ça qu'il est important et même extrêmement important d'étudier les caractéristiques des gens de la sunna. Parce qu'il est clair que de nos jours, lorsqu'on observe la réalité de certains parmi ceux qui s'affilient à la sunna du prophète, on se rend compte que pour eux, un sonné, c'est celui qui a délaissé, sa barbe et qui ne laisse pas traîner son pantalon. Ala wa lisanu halihim. Ça, c'est la langue de leur réalité. C'est-à-dire, c'est que la réalité que clarifie leur comportement et leurs attitudes. C'est qu'en réalité, le sunni pour eux, c'est celui qui a laissé pousser la barbe et qui a élevé son pantalon. Et vous ne verrez jamais cette définition de la sunna dans un livre, parmi les livres des gens de la sunna. Vous ne verrez jamais dans un livre, parmi les livres de la sunna, que le sunni c'est celui qui a laissé pousser la barbe et élevé son pantalon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous n'entendrez jamais un savant dire que le sunni c'est celui qui a laissé pousser sa barbe et élever son pantalon. Il est important qu'on revienne et qu'on étudie les caractéristiques des gens de la sunna et qu'on sache qui sont les adeptes de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Élever le pantalon, c'est la sunna du prophète. Laisser pousser la barbe, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces deux ne font pas d'une personne un sunni jusqu'à ce qu'ils remplissent toutes les conditions et respectent toutes les bases de la salafia. ومن المهم كذلك بيان سمات ومعالم منهج أهل السنة والجماعة حتى لا يحيد عنها أهل السنة فيبتلوا بالفرقة والاختلاف وينشغل بعضهم ببعض تحذيرا وتجريها وهجرا مع أن من المتعين أن تكون جهودهم جميعا في مواجهة أهل البدع والمناوئين لأهل السنة وأن يكون بينهم التواد والتراهم والتناصح في رسم وليم. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on étudie et qu'on clarifie les caractéristiques des gens de la sunna. Afin que les gens de la sunna ne délaissent pas, ne sortent pas de la sunna. Non, et se combattent entre eux. Alors qu'à la base, ils devraient s'unir pour combattre ceux qui combattent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parmi les conséquences du délaissement des caractéristiques ou alors de l'ignorance des caractéristiques des gens de la sunna, c'est que parfois les gens peuvent, à cause de cette ignorance, sortir tous de la sunna et se combattre les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la sunna. Parce qu'en réalité, les sunnis ne peuvent pas se combattre entre eux. Donc quand vous voyez les sunnis se combattre entre eux, sachez qu'il y a problème. Il se peut que les deux groupes soient sortis de la sunna à la base. Et c'est pour ça qu'ils se combattent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est pour ça que nous devons être édifiés, être renseignés sur ce que c'est que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les adeptes de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est qu'à partir de ce moment. Et ce sont les textes. C'est ce qui est bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que les saintes prétentions ne sont de qu'une utilité jusqu'à ce que ces prétentions soient jusqu'à ce que nos actes témoignent de la véracité de ces prétentions. Jusqu'à ce que nos actes témoignent de la véracité de ces prétentions. C'est pour ça qu'islamiquement, les prétentions ne sont de qu'une utilité, jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées. لذلك لما ادعى القوم محبة الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى آية المحبة lorsque certaines personnes prétendaient aimer Allah سبحانه وتعالى est-ce qu'Allah سبحانه وتعالى leur a accordé la récompense de l'amour d'Allah directement et a fait d'eux de ses bien-aimés là أنزل آية الله سبحانه وتعالى أفتح ديفاندر لفرتي كي ريبريتانت لا بالانس سو لاكيل سي بريتانسيون دوار اتر بوزي قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله دي سي فو ايمي الله سيفي مو يسادريس او بروفيت دي او بروفيت صلى الله عليه وسلم دي سي فو ايمي الله سبحانه وتعالى سيفي مو Donc, dire qu'on est soumis reste une prétention jusqu'à ce que les actes suivent cette prétention et témoignent de sa véracité. Donc, il ne suffit pas seulement de dire qu'on est soumis, mais le plus important c'est d'être réellement un soumis. Donc, le premier point que nous allons traiter, من هم أهل السنة والجماعة وما سبب تسميتهم بذلك qui sont les أهل السنة والجماعة et pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? طيب, déjà tu peux me dire pourquoi nous voulons étudier les caractéristiques de l'âme de la sunna. Pour en faire partie. Pourquoi voulons-nous en faire partie? Non. En réalité, c'est parce que la voie de la sunna, c'est la voie authentique et en réalité, c'est cette voix qui est l'islam agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette voix-là, la sunna du prophète, c'est l'islam agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Imam al-Barbahari, si je ne me trompe pas, il a dit ilam anna l'islam huwa sunna wa anna sunna hiya l'islam. Sache que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. Est-ce qu'ici il veut disqualifier les textes qui s'affilient à l'islam? Est-ce qu'il veut les traiter de mécréants? Non. Mais il veut dire que l'islam agréé par Allah subhanahu wa ta'ala c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala inna d-dina inda Allahi islam. La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque adopte une religion autre que celle de l'islam, elle ne sera pas agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion ne sera pas acceptée de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'islam authentique. Il ne parle pas de l'islam entaché. Donc, toutes les sectes, toutes les religions qui ne sont pas la religion de l'islam seront rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala et ne pourront être acceptées. Et toutes les voies et toute voix autre que la voix du prophète sallam sera rejetée. Seule la voix du prophète sallam sera cela avéré par Allah. Donc ça veut dire que dans ce verset nous avons deux choses. Nous avons l'islam globalement. Nous avons les religions. Quand on classe les religions, on classe le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme. Toutes les autres religions à la base sont rejetées. Et quand on revient dans l'islam, toutes liées Toutes les sectes islamistes sont rejetées jusqu'à ce que l'islam authentique reste. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a prescrit qu'un seul islam et une seule vérité. Or, la réalité, c'est qu'il n'existe pas seulement un islam. Donc ça veut dire que de toutes ces sectes-là, il n'y a qu'un seul secte. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans la majorité des versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la voix authentique, il utilise toujours le singulier et jamais le pluriel. Et quand il parle de voix égarée, il utilise toujours le pluriel. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule voix qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il utilise le singulier. C'est la même voix. Alors que les voies qui mènent à l'enfer sont nombreuses et indénombrables. Donc, pourquoi est-ce que nous étudions les caractéristiques des gens de la Sunna? Parce que ce sont ceux qui sont sur l'islam authentique. Et parce que c'est l'islam qui n'a pas été entaché par le faux. Quelqu'un peut s'étonner. Donc, l'islam peut être entaché. Dans le hadith de Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anhu, il dit: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خاف أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم au sujet du bien, et je l'ai interrogé par rapport au mal, j'ai peur que le mal ne m'atteigne. فقلت يا رسول الله, c'est ainsi que j'ai dit: oh noble envoyé d'Allah, إنا كنا في جاهلية وشر, nous étions dans le paganisme et le mal. فجاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخير. الله سبحانه وتعالى nous a fait parvenir ce bien. C'est quoi ce bien? L'islam. Regardez la compréhension des Sahaba. Subhanallah, ils se rappellent de la vie qu'ils menaient avant l'islam, la vie du paganisme et du mal. Nous étions dans cette situation et tu nous as fait parvenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parvenir ces biens. Il a dit: فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ, y aura-t-il donc après ce bien, ce grand bien, un mal? Subhanallah. Méditez bien sur cette question. Hudhayfa s'étonne. Il pose la question pour mon salam en disant: y aura-t-il après ce bien un mal, après cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parvenir, connaîtra-t-on encore le mal après ce bien? Le bien de l'islam, parce que l'islam c'est le bien absolu, c'est tout le bien. Et c'est pour ça que dans le hadith de Mu'adh radiallahu anhu, lorsqu'il est venu, il a interrogé le prophète sallam en disant: oriente-moi vers ce qui me permettra d'accéder au paradis et m'éloignera de l'enfer. قال له رسول الله لقد سألت عن عظيم. Tu viens faire cela pour lui demander une chose grandiose, une chose immense. Qu'on t'oriente vers un chemin, non, qui va te permettre d'accéder au paradis et qui va t'éloigner du feu de l'enfer. Le prophète, avant de répondre, a dit: tu viens faire cela de demander quelque chose d'immense. Il lui a orienté vers l'islam. Il lui a orienté vers le chemin. Après l'avoir orienté indirectement, parce qu'il a parlé, il a cité les piliers de l'islam. Il lui a dit, après, le prophète lui a dit: Ra'asul Amri Islam. Non? Il dit: la tête de toute entreprise, c'est l'islam. Tu veux accéder au paradis, échapper au feu de l'enfer? Fasse de telle sorte que l'islam soit à la base de tout ce que tu entreprends. Tu es commerçant, que ton commerce soit basé sur l'islam. Tu veux éduquer tes enfants, que ton éducation soit basée sur l'islam. Que la relation que tu entretiens entre toi et ta femme soit basée sur l'islam. Ra'asul Amri l'islam. Fais de telle sorte que la base de tout ce que tu entreprends soit l'islam. et soutient cela par quoi? Par la prière. Sache que la prière est la branche solide qui soutient ta religion, sur laquelle se repose ta religion. C'est comme un poteau, l'amour, le poteau qui soutient. Donc, à la couleur, ce que j'ai voulu qu'on comprenne ici, c'est que l'islam, c'est le bien. Et que tout le bien provient de l'islam. Parce qu'en réalité, le bien, c'est ce qui te permet d'être bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Tout bien qui te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala est en réalité un mal. Parce que nous avons dit que la réussite absolue, c'est échapper au feu de l'enfer et accéder au paradis. Donc ce qui te conduit à l'enfer en réalité est un mal, et c'est même le mal absolu. Parce que ça mène vers le mal et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب قال حذيفة رأس الأمر قال حذيفة إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر يرسل après ce grand bien l'islam سبحان الله méditez bien sur cette question parce que j'aimerais qu'on comprenne يعني c'est comme si حذيفة dit disait au prophète est-ce qu'il y aura encore des personnes qui pourront faire des commerces qui vont à l'encontre des enseignements du Coran et de la Sunna du Prophète en matière de commerce, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont éduquer leurs enfants en leur accordant une éducation autre que celle de l'islam? Est-ce qu'il y aura des personnes qui mèneront une vie qui va à l'encontre des enseignements du Coran et de la Sunna du Prophète en salam? C'est un peu ça. Il y a la question. قال رسول صلى الله عليه وسلم il a dit, il y aura après ce bien le mal. Hudayfa a été abattu. Il a dit, au halba de haza shari, min khayr. Hudayfa a eu peur que le bien disparaisse à jamais, que l'islam disparaisse à jamais. Il a dit au Prophète, il y aura-t-il après ce mal le bien? Est-ce que le bien va résister après ce mal? فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخل نعم il y aura du bien va résister après ce mal mais ce qui est un bien qui sera un caché l'islam va résister mais il sera un caché Hudayfa a dit وما دخل c'est quoi ces têtes qui vont entacher l'islam parce qu'il faut que l'islam authentique soit clair et l'islam entaché soit clair. Vous devez pas connaître l'islam, ces choses qui vont entacher cet islam et qui vont faire qu'il y ait une différence entre cet islam et le premier islam cité, le premier bien cité. Al-khayr alladhi lam tashubuhu sha'ibat al-batil هو خير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. C'est ce sur quoi était le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons. C'est pas le bien qui n'avait pas été entaché par les tâches du pauvre. Hudayfa a donc interrogé le prophète, c'est quoi ces tâches qui vont entacher cet islam? Il a dit, قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. C'est un groupe de personnes qui ne vont pas suivre ma guidée et qui vont adopter une tradition autre que ma tradition. Vous voyez, donner ces tâches dans l'islam, dans le civisme d'une autre guidée en dehors de la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'adoption d'une autre tradition autre que la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال حذيفة فهل بعد هذا الخير من شر écoutez bien y aura-t-il donc après ce bien entaché y aura-t-il après ce bien entaché un autre mal parce que Hudayfa avait indiqué il veut que la voie soit claire que l'islam authentique soit identique de l'islam entaché Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut que la chose soit claire.
لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ أَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَةٍ
afin que périssent ceux qui sont voués au périssement dans
la lumière.
Et que survivent, et que se maintiennent sur la voie droite, ceux qui sont voués à se maintenir sur cette voie dans la lumière.
Et que chacun s'égare tout en état de
en toute conscience. Que la lumière soit claire. Que les choses ne soient pas confondues.
Voilà pourquoi Joseph va poursuivre ce questionnement en disant, y aura-t-il après ce bien entaché un autre mal?
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na'am.
Il a dit, il y aura un mal. Il a dit, c'est quoi ce mal?
Qala du'atun ala abwab jahannam.
Man ajabahum fiha qadafuhu ilayha.
Ce sont des prédicateurs à la abwa du jahannam, sur les portes de l'enfer.
Man ashabahum ilayha qadafuhu fiha.
Quiconque répond à leurs appels sera plongé en enfer.
C'est pas ça qui fait peur.
C'est pas ça qui fait peur. Parce qu'on sait, c'est le mal. Vous voyez que le prophète l'a qualifié comme mal. Et le musulman est censé connaître le mal, n'est-ce pas? Le musulman est censé connaître le mal. Mais ce qui fait peur, c'est la qualification des adeptes de ce mal. C'est l'indicateur. Donc, quand Joseph a accompli, c'est que ce mal, vous savez ce qu'il a demandé au prophète?
Joseph
ne peut pas tomber sur ce piège. Radiallahu anhu. Et il ne veut pas que la communauté du prophète sallam tombe sur ce piège. Voilà pourquoi il a dit, ô noble prophète,
donne-nous les caractéristiques de ce prédicateur.
Donne-nous les caractéristiques de ce prédicateur.
Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui fait peur. Hum qawmun min bani jildatina, wa yatakallamuna bi alfinatina. Ce sont des personnes comme nous. Babus, qui ont le pantalon élevé. Oui, à cette salle, on a dit Al-Sinatina, ils tiennent le même langage que nous. C'est pour ça que les savants ont dit que l'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. Parce qu'il n'est pas aperçu comme un ennemi. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est ça qui fait peur.
C'est celui qui est connu comme étant un sunni. Qui s'attire à la sunna,
mais qui en réalité est un prédicateur
qui s'est tenu sur les portes, sur une porte parmi les portes de l'enfer et qui appelle vers celle-ci. Et c'est pour ça que lorsque vous entendez les savants dénoncer les prédicateurs égarés, sachez que c'est pas miséricorde pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, quel que soit le niveau d'effort de ces derniers, le niveau d'effort qu'ils feront pour cacher leur identité réelle, ils seront toujours démantelés par les savants de l'islam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifa min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum. حتى يأتي الله بأمره. وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم. يحمل هذا من كل خلف العدول. Cette science sera portée par un groupe de personnes, de ceux qui viendront après. Mais juste un groupe de personnes justes porteront cette science. ينفون عنه تحريف الغالين. Ils vont rejeter. Non, c'est quoi leur rôle? C'est rejeter tout ce qui et attribuer à cette religion tous les changements commis par les exagérateurs, Al-Rali, le rôle du savant de l'islam, ce serait de détester ces personnes et rejeter le changement. Tous les changements qu'ils opéreront dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ جَاءَهُمْ وَأَبَاعَ الْبِدْعَ قَامُوا وَرَدُّوا عَلَيْهِ. Lorsqu'une personne viendra, s'appuiera sur cet inversé pour dire que la bid'a de Sarata est liquide, c'est dans la pensée du Dieu. Avec la science du kitab et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour rejeter cette déformation et cette exagération. C'est ça leur rôle. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces personnes existent. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين et le faux des usurpateurs وتأويل الجاهلين et la déformation des ignorants. Ici nous avons trois catégories de personnes. الغالين, ceux qui dépassent les limites, les exagérateurs. والمبطلين, les fauteurs. والجاهلين, et les ignorants. Oui. On parlait de la science tout à l'heure, non? Vous acceptez de faire partie de ces catégories de personnes? Comment échapper? Non? C'est l'il. C'est la science. Maintenant, j'ai insisté dessus. Et Inch'Allah, nous allons lire une parole d'Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ici, le moment venu. Voilà, tout le hal. Donc, ces prédicateurs-là, quel que soit leurs efforts, l'effort qu'ils fourniront pour cacher leur identité réelle, ils seront démantelés par les savants de l'islam et ils seront dénoncés. Mais, ce qu'il faut déjà comprendre, et c'est ce qui a un rapport avec ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'en réalité, le fait qu'on délaisse la barbe et soulève le pantalon ne fait pas de quelqu'un automatiquement un sunni. Il se peut qu'il soit un prédicateur à une porte parmi les portes de l'enfer. D'après le hadith, quand le Nabi, il y a quelqu'un comme une banidil datina. Et en il veut dire qu'ils sont comme nous, dans leur apparence. Quand il parle de Bani, il veut dire que dans leur apparence, ils sont comme nous. Regardez quand vous dénoncez un tablier. Quelqu'un qui n'est pas soumis, parfois souvent je te connais. C'est le même genre. Comme quoi vous même Bani, il dit qu'il a tout ça est dans la sunna, il faut seulement que nous décidions. Tout ça est dans la sunna. C'est pour ça que j'ai dit qu'en réalité, il n'y a pas de scripture dans la vie du croyant. Sauf qu'il est ignorant, parce que tout y est dans la révélation. Il faut juste s'imprégner pour ne plus être surpris et avoir la position à adopter dans chaque situation. Hudhayfa, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallam lui a donné les attributs, les caractéristiques de ces prédicateurs, il a compris que c'est chaud. Il a dit, Ya Rasulallah, Fama ta'amuruni in adrakani. Quelle est la consigne que tu me donnes si ces personnes m'atteignent? Il t'a dit, si je vis jusqu'à leur époque, comment dois-je me comporter? J'espère que vous n'avez pas oublié pourquoi nous avons cité ce hadith. C'était pour expliquer pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à décider les caractéristiques des gens de la sunna. On va expliquer parce que c'était ça l'islam authentique. À la fin de ce hadith, vous allez vous rendre compte que c'est également dans la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala à Hudhayfa, révérend qui lui a recommandé de se cramponner dans les rangs, de rester dans les rangs des adeptes de la sunna. Donc, la Hudaïfa a dit au prophète sallam, comment donnes-tu si ces gens-là me trouvent, si j'ai vu jusqu'à leur époque? Il a dit,
تلزم جماعة المسلمين و إمامهم.
Reste dans le rang de la jama'a, du groupe des musulmans et les chefs. طيب ما هي الجماعة؟ C'est quoi le groupe en islam? Le groupe en islam, c'est la vérité et ceux qui se sont cramponnés à cette vérité. Même si c'est une personne. Donc, en réalité, le groupe en islam, ce n'est pas le nombre. Mais ça dépend de ce sur quoi tu te cramponnes. C'est ça qui fait le groupe. Donc, et islamiquement, on ne peut parler du groupe que si on est cramponné au kitab et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc avant de parler de la division, Allah subhanahu wa ta'ala nous a orienté vers ce sur quoi nous devons être unis. La base de l'union, c'est le câble d'Allah, qui est la révélation, qui est composée du kitab et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc islamiquement, il ne peut avoir de groupe que s'il y a la base. Et la base c'est quoi? C'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si la base est là, celui qui est cramponné à la base, c'est lui le groupe. Qu'il soit une personne ou un groupe de personnes. Donc en réalité, c'est la vérité qui fait le groupe. C'est ça le résumé. Voilà pourquoi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, al-jama'a, c'est al-haq. Le groupe, c'est la vérité, parce que c'est la vérité qui fait le groupe en islam. C'est la vérité qui fait le groupe. Donc si une personne reste cramponnée à la vérité, en réalité c'est lui le groupe, et tous ceux qui se sont détachés de cette vérité sont des sectes égarés. C'est pour ça qu'Allah dit voilà tafaraku, et ne vous divisez pas. Donc ceux qui restent là-bas, ce sont eux qui se sont divisés, qui ont divisé. Mais ceux ou celui qui est resté cramponné à la vérité, c'est lui le groupe. C'est pour ça que pour clarifier cette réalité et la connotation que prend le terme groupe en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah.